Chapitre 21. Cassette numéro 19.
Enregistrement de l'histoire de Jean. Pour Agnès. Aujourd'hui, on est le...
J'entends ses pas. Elle ouvre un tiroir, le referme. J'essaie de deviner dans quelle pièce elle se trouve. Elle revient vers le magnétophone.
5 septembre 2005.
Un temps, une respiration.
C'est ta mère qui m'a prévenue. Anna criait et répétait « Jean est parti ». J'ai cru qu'elle l'accusait, que mon frère était parti avec une autre. Il était beau et puis souriant. Surtout, il ensorcelait les pianos. Alors, pourquoi pas le cœur de quelqu'un? Quelqu'un d'autre. Ensuite, ta mère a dit « Ils n'ont rien pu faire ». C'est ce « il » qui m'a fait le plus de mal dans ma vie. J'ai eu une vision. J'ai vu des gens s'agiter autour de lui, sur son rythme cardiaque. J'ai vu son métronome tomber par terre. J'ai compris que ces « il », ce n'était ni toi, ni elle. C'était des passants ou des secouristes. Mais en même temps, une voix répétait dans ma tête « Il est trop jeune, il ne peut pas mourir avant toi. Toi, tu répares des chaussures, tu es moins importante que lui qui fait de la musique. » Agnès, t'as vu les yeux des spectateurs au concert? C'est bien plus beau que les yeux de mes clients quand ils récupèrent leurs chaussures. Après, j'ai tellement pleuré que j'aurais pu me noyer des larmes. J'en avais partout. Et puis j'ai pensé à toi, Agnès. Je n'allais pas te laisser toute seule avec Anna, qui était bien gentille. Ça, oui, bien gentille, mais toute seule avec toi et son violon, je voyais pas trop comment elle allait faire. Tu vois, les musiciens sont un peu inadaptés. Ta maman, à part jouer du violon, elle savait pas faire grand-chose. Et ton père était perdu sans un piano. Quand Jean est parti, j'ai acheté des vêtements noirs et j'ai arrêté d'écouter la radio. Tu te souviens? Avant, dans mon magasin, il y avait de la musique. Après Jean, j'ai arrêté longtemps. J'ai tourné le dos aux chansons.
Un long silence. J'appuie sur pause. Je n'en reviens pas du trésor que contient cette grande valise. Je me lève pour me servir un verre d'eau. J'ouvre le placard de la cuisine. Je suis dans les affaires de Colette. Je suis dans sa voix, dans ses derniers murs. Savait-elle qu'un jour je serais là? Pourquoi avoir attendu de mourir pour me parler? Je saisis l'éponge qui se trouve sur le coin de l'évier. Combien de fois l'a-t-elle utilisée pour ramasser des miettes sur la table? Je retourne dans le petit salon, m'assois sur mon matelas et appuie sur la touche « lecture ».
Pour que tu comprennes, il faut que je retourne en arrière. Les belles choses ont commencé et les sales se sont terminées quand mon père est mort. Un an après la naissance de Danielle, la petite sœur, un an après m'avoir retirée de l'école. Un coup de sabot dans la tête. C'est moi qui l'ai trouvée, couchée dans la paille, tout raide, du sang dans les cheveux. C'est ce qui m'a le plus choqué, ce sang dans ses cheveux clairs. Il était tout raide, froid. J'ai eu très peur, j'ai crié. Quand la mère l'a découvert, elle s'est mise à hurler avec son drôle d'accent, un peu bourguignon, un peu patois, un charabia dont j'ignore les racines. C'est quoi qu'on va devenir? C'est quoi qu'on va devenir? Le marquis et la marquise de Sénéchal, qui étaient propriétaires des terres, se sont occupés de la veuve et des trois orphelins. Moi, comme tu sais, j'étais copine avec le fils, Blaise, et j'aimais bien sa mère. Elle nous donnait des bonbons, des écharpes, de la limonade. Ils ont embauché la mère à leur service et l'ont installée avec Jean et Daniel dans une dépendance. Moi, je suis partie en apprentissage. Je le voulais, cet apprentissage. Ce départ, je n'aurais jamais osé l'espérer. J'avais arrêté de rêver, devenir institutrice, tu parles. Par contre, faire n'importe quoi pour partir vivre en ville, c'était comme un conte de fées. Fini les animaux, la ferme, la merde, les patates, la charrue, le travail qui fait mal dans tout le corps. Ce qui restait de notre bétail a été vendu, sauf Bijou, le cheval de trait. Blaise a convaincu ses parents de le garder. J'ai jamais autant aimé une bête. Les sacrifier, leur affolement quand ils sont montés dans les bétaillères. Un agneau, ça pleure comme un enfant. Et Jean a pleuré comme un agneau quand il m'a vu emporter ma grosse valise vide. Je l'ai serré dans mes bras très longtemps en lui expliquant que je viendrais chaque dimanche de ma vie pour le voir, toute ma vie, et que j'allais apprendre un métier. Mais là, je t'explique mal. Les larmes de mon frère m'ont donné du courage. Pour la première fois, je suis entrée dans la cour du château avec lui alors que la mère me l'avait interdit. Le château, pour nous autres, la famille Septembre, s'était défendu. C'est monsieur de Sénéchal qui a ouvert la porte et qui nous a regardés comme si Jean et moi étions deux petits tas de fumier encore fumant. Mais je n'ai pas baissé les yeux. J'ai dit bonjour et j'ai demandé si madame de Sénéchal était là. Il allait me claquer la porte au nez quand Blaise est apparu. Il m'attendait. On aurait dit l'ange dans l'église de Guignon. La sculpture au fond à gauche. Va la voir, tu verras qu'il lui ressemble. Il me reste une photo de nous. Dessus, on doit avoir une douzaine d'années.
Elle cesse de parler quelques minutes. J'entends son souffle dans le silence.
Ah, Colette, a dit Blaise quand il m'a vue. Il a fait mine d'être surpris. Tu vas bien ? J'ai répondu oui et que je voulais voir sa mère, la marquise. Suis-moi. Son père est reparti en faisant une drôle de grimace. La main de Jean dans la mienne, on a suivi Blaise, on a monté l'escalier, ça sentait le parfum partout, une odeur de jasmin et de cire. J'ai fait très attention à ce que je faisais, mes gestes, là où je posais mes pieds. J'avais trop peur de casser quelque chose. Jean ne mouffetait pas, collé à mes jambes. À 9 ans, il était haut comme 3 pommes et léger comme une plume. Les parents se demandaient parfois ce qu'ils allaient faire de lui, car il ne possédait pas la carrure d'un garçon de ferme. La mère le gavait de soupe, tu parles. Ce jour-là, il n'a pas posé de questions. Il m'a toujours fait confiance. Il m'a toujours suivi.
J'entends le ronronnement du frigidaire derrière elle. Et je l'imagine assise dans sa cuisine.
Blaise est entré dans une pièce, il a dit « Maman, Colette Septembre vous demande ». Il vous voyait ses parents. La marquise est apparue avec un sourire comme si elle sortait du sommeil ou qu'elle avait de la fièvre, dans une robe claire, un peu de rose aux joues et aux lèvres. Elle ne ressemblait pas tellement aux autres. Elle avait toujours l'air de sortir d'un des romans que Blaise prenait dans la bibliothèque pour me les prêter. « Bonjour, madame. Pardon du dérangement, mais comme vous savez, je pars faire mon apprentissage et je ne peux pas emmener mon petit frère. » Avant de partir, je voudrais savoir, est-ce que je pourrais voir le grand piano ? Elle a un peu écarquillé les yeux et dit oui. Est-ce que Jean peut le voir aussi ? Oui. On a suivi madame de Sénéchal et Blaise, on a traversé 2 bureaux pleins de lumière, des tableaux au mur, et on l'a vu. Comme un roi, rutilant au milieu d'une immense pièce, un Steinway. Un chef-d'œuvre, plus beau que tous les tableaux au mur, les tapis, les meubles. La marquise a dit « Les Allemands ont réquisitionné le château pendant la guerre. Le piano est arrivé par camion pour un haut gradé. À la débâcle, ils l'ont laissé là. J'ignore d'où il vient, à qui il a appartenu. »
J'appuie sur la touche « Arrêt ». Je prends une profonde inspiration et sors dans le jardin. Un rayon de soleil m'y accueille. Je pense très fort à mes parents. On ne parle pas suffisamment du drame de perdre ses parents et de se retrouver seul au monde. Je retourne vers le magnétophone. Il faut poursuivre, comprendre.
En voyant mon reflet de paysanne dans ce noir laqué, j'ai oublié madame de Sénéchal, j'ai oublié Blaise, j'ai oublié les bonnes manières et j'ai dit à Jean, « Il est à toi, Jean, ce piano. » Il est à toi. Jean a lâché ma main, il s'est approché de l'instrument sans le toucher, puis il s'est mis à rire. J'ai eu envie de tout le temps garder ses rires. J'aurais voulu les mettre quelque part dans une boîte à bijoux. Je ne les ai jamais oubliés. Je les entends encore, plusieurs fois par jour. Ils m'accompagnent. La marquise a souri. Pendant ce temps, Blaise a soulevé le couvercle et remonté le tabouret face au piano. Quand il a fait ce geste, je n'ai jamais eu autant envie de pleurer. Bien plus que quand le père est mort. Tu vois, Agnès, je ne sais pas pourquoi certaines personnes sont bonnes avec les autres, sont nées pour être généreuses. Blaise de Sénéchal faisait partie de cela. Jean s'est assis derrière le piano. J'ai vu ses yeux s'allumer. « On va reprendre, » lui a dit Blaise. Puis il s'est adressé à sa mère. « Maman, Jean a un don. Jean, joue-nous le menuet de Bach, le premier qu'on a travaillé ensemble. » J'ai eu un vertige quand mon frère a posé ses petits doigts sur le clavier. Je me suis sentie mal et bien à la fois, sous le coup de l'émotion. C'est comme ça qu'on dit. Une émotion comme jamais. Agnès, tu te rends compte, on était en 1959. J'avais grandi dans la merde et mon petit frère possédait Bach dans les mains, les bras, le corps tout entier. Blaise a dit à sa mère, il n'a jamais étudié le solfège, mais dès qu'il entend n'importe quelle musique, il la reproduit. Les enfants dépendent des parents. Si Jean avait dépendu du marquis, de la mère, du père, il serait devenu ouvrier aux forges de Guignon. Ça n'a rien de déshonorant. J'en ai fréquenté et aimé des ouvriers des forges. Et c'est la marquise qui a pris Jean sous son aile. Seuls les grands oiseaux vous prennent sous leur aile. Et je n'ai plus rien eu à demander. Même pas eu à faire la mendiante pour mon frère. Troublé par Jean, c'est Eugénie de Sénéchal qui a décidé que mon frère apprendrait le solfège, qu'il prendrait des leçons avec Blaise et qu'elle y veillerait, coûte que coûte. Elle a dit ça, coûte que coûte. Je suis partie apprendre mon métier. J'ai su que je ne manquerais pas à Jean, que ce piano allait prendre toute la place et qu'il n'y en aurait plus pour le reste.
Elle cesse de parler. Je l'entends se lever, déposer le diamant de la chaîne IFI sur un vinyle, le premier enregistrement de papa en studio, des nocturnes de Chopin. Mon père lui a offert cette chaîne pionnière dans les années 80, pour qu'elle puisse l'écouter lorsqu'elle le souhaitait. Papa me parlait très peu de Colette. Entre eux, c'était doux. Je n'ai jamais assisté à une dispute, au moindre reproche sous-entendu ou à un geste brusque. Il y avait beaucoup de regards et de silence entre eux. Je n'y prêtais pas attention. Les mecs sur leur moto m'intéressaient bien plus que la relation entre ma tante et mon père. Mes mains tremblent. Je vais faire traîner, découvrir ces cassettes petit à petit, comme un cadeau, fermer les yeux pour laisser faire le hasard. Je ne vais pas les enchaîner, comme quand on lit un livre qu'on ne veut pas dévorer mais savourer. J'ai tout mon temps. J'ai couru après un premier succès, puis après un nouveau succès. Aujourd'hui, plus rien ni personne ne m'attend, et je n'attends plus rien de personne. C'est peut-être ça la chance. Du moins, la liberté.